C'est un exercice bizarre parce qu'on choisit, enfin, les commissaires du panorama ne choisissent pas les œuvres. On les accompagne, on aide à leur développement, on aide qu'elles ne restent pas velléitées. Mais personnellement, je l'ai conçu, l'exposition, son parcours et les relations entre les œuvres, depuis les projets écrits, depuis les désirs d'étudiants. Et je me suis retrouvé en cours de route, parfois, avec quasiment le catalogue écrit, fait, conçu, et avec une œuvre dont on me disait, mais dis donc, c'était quelqu'un d'ici qui me disait, mais attends, tu décris une œuvre et qui n'est pas celle-là. Elle a fait autre chose, ou il a fait autre chose. Donc c'était pas sans saveur, mais ça fait partie du jeu, quoi. Hein. Ça fait partie du, c'est la règle du jeu, parce que on ne peut pas concevoir l'exposition au dernier moment. Et on ne peut pas concevoir le catalogue au dernier moment. Idéalement, mais ça c'est le propre de toute exposition. Idéalement, le catalogue devrait être fait, et ce qu'on a à en penser soi-même, comme commissaire, ça devrait être le fait de la fin, enfin de l'accrochage. Là, maintenant, j'ai très envie de faire le catalogue. J'ai très envie de faire le catalogue maintenant. Il est probable que j'écrirai probablement tout à fait autre chose que ce que j'ai écrit dans le catalogue. Voilà. Et je pense que j'organiserai le parcours autrement. Ça dit, le parcours, il est intéressant là comme ça, hein, mais je le ferai autrement. Par exemple, c'est au terme de l'accrochage que je me rends compte que certains étudiants, beaucoup d'étudiants, ou du moins il y a une ligne de fait, il y a une crête d'intérêt que je n'avais pas perçu autant au moment où j'avais entendu, au mois d'octobre environ, quand j'avais entendu les étudiants me présenter leurs œuvres. Ce qui est normal, c'était pas à eux d'avoir une interprétation de leur œuvre. Donc ils ne pouvaient pas me dire quelles étaient les éventuelles significations fortes qui en sortiraient. Hein. C'est l'œuvre qui est chargée de la faire apparaître, la signification. Hein. Et par exemple, j'étais très frappé comment l'épuisement physique, l'épuisement, la fatigue, aller au-delà de soi, l'usure également des corps, mais aussi l'usure des matériaux. C'est un thème vraiment qui revient, ce qui n'est d'ailleurs pas inintéressant parce que, ce sont des gens d'aujourd'hui, hein, ce sont des contemporains, ces gens-là, ces jeunes-là. Et donc, ils ressentent des choses du temps, et une des choses du temps, moi, qui m'a toujours beaucoup frappé, et j'étais étonné de me retrouver avec cette question exprimée là, c'est le fait que, enfin, nous tous qui êtes là, d'ailleurs, même le plus âgé d'entre nous, nous n'avons pas connu l'époque où l'usure des choses qui nous entourent excédait notre vie. C'est-à-dire que nous sommes dans une époque que mais même mes parents n'ont pas connu le phénomène. Mes parents, les objets, les choses qui les entouraient, l'usure de ces choses et ces objets excédait leur vie. Aujourd'hui, les objets qui nous entourent, cet appareil-là, il durera moins que votre vie. Même les chaises et les tables, l'environnement mobilier et immobilier dure moins fréquemment notre vie. Jadis, c'était le contraire. On transmettait des choses. On transmettait un capital. On transmettait. Il y avait la notion d'héritage avait s'incarné de manière beaucoup plus idéalement qu'elle ne s'incarne aujourd'hui. Maintenant, on transmet des valeurs immobilières ou des valeurs foncières. C'est toujours été le cas, mais beaucoup moins. Enfin, maintenant, ce n'est plus que ça. Les objets ne survivent pas. Et la notion d'usure, le renouvellement des objets, le renouvellement du monde, c'est quand même une chose qui traverse tout ce que les jeunes étudiants ont fait ici, mais je ne le savais pas avant. J'avais senti deux, trois choses, mais je ne le savais pas. Quand il y a un jeune cinéaste chinois là de Shanghai, il est de Shanghai, qui s'attache autant, je ne comprenais pas pourquoi il avait autant de passion à filmer le port de Shanghai en accéléré. Et j'ai compris l'intérêt qu'il y avait de filmer l'année dernière, hein, Shanghai en accéléré, pour en montrer l'obsolescence du monde, quoi. L'obsolescence accélérée du monde. Donc je l'ai compris cette année parce qu'il a fait un film que vous verrez ou vous verrez pas, enfin peu importe, sur Shanghai où on montre la ville détruite pour la ville centenaire, plusieurs pluricentenaires de Shanghai pour élever des tours. Donc la ville est rasée, la ville historique est rasée, comme Pékin, c'est pareil, hein. Et son film est très beau parce qu'il montre des friches industrielles qui découlent de la destruction des maisons, et il fait revenir dans ces ruines les fantômes des gens qui les ont habités, y compris des gens qui viennent de quitter les lieux et qui reviennent, qui passent et qui revoient leur maison détruite. Enfin, ils n'en voient même plus rien. Enfin, c'est même trois pierres empilées. C'était leur maison. Hein. Donc bon, et cette obsolescence. Il y a un film à Paris qui est absolument, sans doute probablement le plus beau film de cette année. Et Cannes n'a rien proposé de meilleur que ce film. C'est le film qui s'appelle, bien nommé, qui s'appelle Still Life. Le film du chinois Jia Zhang, qui est un chef-d'œuvre, qui est vraiment un chef-d'œuvre des arts, je dis bien au pluriel, un chef-d'œuvre des arts contemporains, toutes disciplines confondues, hein, qui dit bien la rotation du monde, la rotation de l'obsolescence et du renouvellement du monde. Et alors là, c'est frappant parce que vous allez voir, il y a des artistes qui sont attachés, par exemple, à ça, c'est-à-dire qui sont attachés à l'obsolescence des supports sonores. Il a pris un disque vinyle, il a pris une petite cassette, il a pris un disque numérique, il a pris un agra. Et ce qu'il expose, ce ne sont pas ces objets qui n'ont pas de valeur patrimoniale en tant que telle, encore que si on était dans un centre de création industrielle, on pourrait exposer ces objets dans une vitrine. Mais ce que ce jeune garçon, Yann Le Guay, qui s'appelle, expose, c'est la mémoire. C'est même pas la mémoire du son que produisaient ces objets, c'est la mémoire de leur propre destruction. C'est la mémoire de leur usure. Alors vous entendez le bruit du son du disque en train de se détruire, qui tourne devant vous, qui est en train de se détruire. Alors, ce qui est une absurdité, parce que on ne peut pas garder la mémoire de la destruction. C'est un oxymoron, quoi. C'est comme une clarté obscure. A priori, il n'y a pas de mémoire possible de la destruction, puisque par principe, la destruction ne se mémorise pas, puisque... Voilà, bon, c'est tout. C'est comme une clarté qui ne veut pas être obscure. Bon. Et là, c'est ce qu'a tenté ce jeune artiste. Quoi. Mais aussi, vous allez voir, il y a beaucoup de choses sur l'épuisement. Là. Ce que vous entendez chanter ou hurler, selon qu'on a l'intérêt pour ce qui se passe dans cette œuvre, c'est chanter, bien évidemment, mais ça va jusqu'au cri. C'est une chanteuse, une cantatrice et un trapéziste qui s'affronte à celui ou à celle qui va craquer, qui va s'épuiser du point de vue du souffle. Si ce n'est qu'il y en a une qui chante et qui pousse jusqu'où il est possible de pousser l'aigu, et le trapéziste refait des mouvements jusqu'à l'épuisement. C'est lui qui perd d'ailleurs s'il tombe. Il tombe de son trapèze et elle continue légèrement encore. C'est drôle parce que alors ce qui est très intéressant, c'est que des œuvres d'art contemporain comme ça, au fond, c'est là qu'il y a un grand cycle. C'est que cette œuvre d'art contemporain, c'est de l'art contemporain. Il y a du numérique dedans, il y a du vidéo, il y a de la vidéo projetée, etc. Il y a de la confrontation de disciplines artistiques. Enfin, c'est de l'art contemporain, comme on dit aujourd'hui. Et étrangement, on dirait du Sacha Guitry. Parce que quand vous regardez, il y a un film qui s'appelle La Malibran de Sacha Guitry, qui est interprété. J'ai pensé ça hier, mais vous voyez, c'est maintenant qu'il faut que je fasse le catalogue. J'ai pensé hier que il y a un film de Sacha Guitry qu'il a fait pendant la guerre, en 43, 42, qui s'appelle La Malibran, donc qui raconte l'histoire, la vie de la cantatrice La Malibran. Et voix exceptionnelle, elle est interprétée par Géorie Bouet, qui est une cantatrice qui ne vous dit plus rien maintenant, dont mes parents étaient fous parce qu'elle avait une voix de rossignol, et c'était extraordinaire. Et le film porte bien sûr sur sa performance, bon, et sa capacité d'atteindre des degrés d'aigu, bon, exceptionnel. Et là, c'est drôle parce que le film, à la fin, se termine, elle meurt. Elle disparaît littéralement de l'écran, elle s'efface de l'écran avec une espèce de fondu au noir, et la voix continue. Mais dans la salle, enfin, le film était fait pour projeter dans la salle de, pour continuer alors que la salle était, il n'y avait plus d'image sur l'écran. Et les spectateurs, c'était assez, assez étonnant pour l'époque. Et là, se retrouver devant un écran noir, c'était quasiment du Marguerite Duras avant l'heure, devant un écran noir avec encore un chant de Géo Riboué qui continue, alors qu'il n'y a plus d'image. Et c'est un peu, il y a un peu ça de là, quand le trapéziste tombe, la voix continue encore et elle donne encore cette voix, la mémoire du conflit qui a eu lieu entre ce trapéziste et cette chanteuse. Et vous allez voir d'ailleurs comment il y a le souffle. Alors, faut être vraiment au bon endroit, hein. Le souffle du trapéziste, l'épuisement du trapéziste, la performance physique s'affrontent à la chanteuse. Et on s'aperçoit comme ça que la voix, c'est du corps, quoi. Alors, il y a pas mal d'œuvres comme ça. Alors, pour terminer cette petite présentation, c'était quand même un peu compliqué d'organiser des œuvres qui n'avaient a priori pas de raison d'être ensemble. Si ce n'est que ces jeunes gens ont passé une année ensemble, donc il y a de la contamination ensemble, c'est évident, hein. Mais enfin, bon, c'était bien embêtant, mais de les associer. Alors j'ai commencé par une œuvre de Sébastien Cabourg, qui est derrière la porte, qui est une œuvre assez carcérale, difficile, assez insupportable, dure, ça commence très raide. On ne sait pas si ce sont un chenil technologique qui voilà, faut passer au milieu. Et ça se termine, enfin le bout de la rue, de la scénographie en tout cas, se termine par une œuvre fondée sur la caresse, le frôlement, la découverte d'un corps qui n'est que virtuel. Le corps ne se découvre que parce que les gestes que l'on fait avec des palpeurs et des fibres optiques, dévoile qu'on rencontre un champ sonore, un champ susceptible d'être en effet matérialisé par le son. Et comme ça, on construit le volume que l'on découvre que par la caresse, quoi, et par le mouvement. Donc je commence par une pièce très dure, et je commence a priori par une pièce qui évoque la douceur. Et là, il y a une chose très intéressante, vous allez voir, il y a un grand intérêt des artistes aujourd'hui, mais ils ne sont pas les seuls ici, mais eux ne sont que la plaque sensible de la sensibilité contemporaine, hein, c'est normal. Hein. Cette exposition reflète les tendances aujourd'hui avec leur schéma, leur tic, leur convention, mais aussi leur invention, c'est les deux, c'est le propre de l'art. Hein. Et il y a par exemple 3-4 artistes qui sont intéressés aux nuages, aux nuées, à l'atmosphère. Alors vous verrez, avec des bonheurs qui vous plairont plus ou moins, enfin ça dépend, enfin les trois sont, je trouve, inventifs. Et je me suis pris à penser, et ça je ne l'ai pas dit non plus dans le catalogue, mais c'est en le voyant hier, je me suis dit, mais au fond, à la fin du siècle, le 19e siècle, le fait d'avoir pu obtenir des couleurs dans un tube et les emporter dans ses poches a permis en effet de saisir, d'où l'impressionnisme, saisir les impressions qu'on pouvait comme ça, de manière fugitive, éphémère, saisir et ne plus s'attacher à peindre une histoire, ou même peindre l'histoire, tout simplement. La possibilité de condenser, de concentrer la couleur a permis, effectivement, de peindre sur le motif, comme on disait. Et étonnamment, la vidéo par rapport au cinéma a un peu le statut du tube par rapport à la peinture qu'on écrasait dans les moellons avec de la malachite et différents matériaux. Il y a une manière, grâce à la vidéo, de saisir l'impression du moment rapide, parce que l'objet est rapide, l'enregistrement est aisé, et en plus on peut l'interactiver. Hein, on peut, grâce à la restitution vidéo du mouvement des nuages, on peut un peu après inventer des dispositifs interactifs qui font que quand on marche devant l'image, vous allez voir, tout s'accélère, bouge, revient, etc. Mais un peu comme je me disais hier, en étant dans une pièce qui était faite sur la mémoire d'Honfleur, avec les nuages qui s'activent, je me disais, j'avançais, je reculais, c'est fait pour ça. Mais je me disais, j'étais au fond un peu comme un spectateur qui visitait la première fois, qui rencontrait l'impressionnisme au 19e siècle, et que l'on invitait à avancer, reculer, puisque c'est une peinture qui a impliqué pour la première fois peut-être le mouvement du visiteur. Puisque devant la peinture d'histoire, devant un tableau de David, on reste devant, et la solennité du tableau impose presque la solennité du regard du visiteur. L'impressionnisme, au contraire, a appelé à s'avancer, à regarder, à se perdre dans la couleur, ou se reculer pour voir le motif qui apparaît. Et étonnamment, la vidéo et l'interactivité de la vidéo restituent, fait revivre dans une sorte de cycle de l'histoire de l'art, comme une réminiscence, comme une survivance, dirait l'historien de l'art Didier Huberman, hein, une survivance d'un geste, d'une posture anthropologique du visiteur qui, vis-à-vis de la vidéo projetée interactive, retrouve une manière de regarder les images et d'agir dessus, comme le public à la fin du 19e siècle découvrait l'impressionnisme et avait pour obligation de bouger devant la toile. C'est des choses très étranges, très passionnantes qu'on découvre. Ah, bien sûr, tout cela est à l'insu des artistes eux-mêmes, qui sont eux dans leur temps. Ils expriment là quelque chose que leur permet le matériau. Puis vous verrez d'autres choses aussi. Il y a de l'interactivité, il y a des gens qui... je vous promets, c'est le dernier point, c'est que j'étais très frappé cette année, mais ça vient depuis plusieurs années au Frénois, mais progressivement, c'est à la fois l'histoire du Frénois qui veut ça, qui commande ça, mais c'est aussi l'histoire du temps, c'est que l'effet numérique, les technologies numériques s'affichent de moins en moins comme telles. Et les étudiants, les artistes vont même jusqu'à presque le cacher, le numérique. Vont même jusqu'à presque le planquer dans des vieux objets. Il y a une artiste qui s'appelle Marie Hendrix, là, qui va loger l'énergie numérique, enfin la commande, la programmation numérique dans un vieux lustre en verre, avec de la verroterie, qui renvoie pour elle à des souvenirs d'enfance, et qui tourne et qui programme l'ordre d'apparition des séquences qui sont projetées sur un papier peint. Vous allez voir, c'est bon, tout un tas de choses autobiographiques. C'est-à-dire que le numérique se cache. C'est plus depuis la technologie du numérique affichée que l'artiste veut se dire virtuose. Il n'y a plus de gratuité comme ça, de la performance numérique qui en met plein la vue en disant, vous voyez, ce qui ne veut pas dire que les artistes ne sont pas, plus que jadis d'ailleurs, handicapés par le numérique. Au contraire, ils se débrouillent même pas mal sur l'ordinateur. J'avoue que ça me bluffe un peu, moi. Mais ça ne veut pas dire, en revanche, qu'ils l'affichent. Et il y a beaucoup de pièces qui, au contraire, c'est la poésie. C'est l'humour, c'est... Oui, poésie, humour, c'est la dramaturgie qui l'emporte sur le pur effet technologique qui bluffait tout le monde il y a quelques années, quoi, si vous voulez. Qui dit, oh là là, non, c'est moderne, ça. C'est bon. Là, c'est plus ça qui joue. Et vous verrez, il y a une pièce d'un garçon qui est d'origine allemande, Thorsten. Il est allemand, voilà. Et voilà. Alors, c'est désopilant parce que, vous allez voir, c'est une même pièce... qui, lorsque vous arrivez dans la salle, est en train d'être répété par deux acteurs. Et il y a deux plaques sur le sol. Alors, vous choisissez votre interprétation. Soit vous allez à gauche, vous avez un style très Fassbinder. Soit vous allez à droite, vous avez un style très récité en toge antique, à la manière de Jean-Marie Straub, vous voyez. Alors, vous choisissez. Ce qui est évidemment très frappant, c'est pas le numérique, c'est pas l'interactivité de cette pièce qui découle de la manière dont le spectateur visite. Ce qui est important, dans la pièce, c'est le talent de comédien. C'est ça qui est formidable. En fait, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est le talent de comédien de cet artiste, qui interprète tous les rôles, enfin, de manière absolument délirante, puis se démultiplie, et son humour. C'est ça qui ressort de cette sophistication technologique, vous voyez. C'est plus la technologie numérique en tant que telle. On s'est beaucoup amusé avec ce type qui vous allez voir, qui se grime, qui se maquille, qui se transforme, voilà. Mais il se transforme pas du tout par le morphing vidéo. Il se transforme en se maquillant de manière traditionnelle. Vous voyez, donc c'est ça qui est intéressant. Bon, vous verrez, c'est les choses que je retiens, si vous voulez, de cette 8e édition.
maintenant, je trouve, au bout d'un moment, donc on la quitte plus des yeux parce que on s'interroge un petit peu sur ce qu'elle va faire. Il y a un côté chenille aussi, hein, un côté comme ça, très carcéral et agressif. Alors le principe est un peu idéalement
caché derrière.
Voilà, idéalement, bien évidemment, le principe étant d'inviter le visiteur à passer au milieu et de voilà, au-delà de cette limite, les fantômes vinrent à lui, comme on dit dans le film de Murnau. Mais c'est un peu un sas obligé. Mais je trouvais que cette pièce avait aussi une grande vertu. On n'imagine pas ailleurs la grande vertu de couper avec le monde et de rentrer dans un autre monde qui est celui de l'exposition. Ça permet vraiment de... Alors, c'est une entrée pas très facile. Vous voyez ? Ah oui, c'est tout ça appelle... Tout ça évoque les alarmes, tout ça... J'aime beaucoup cette pièce parce que ça évoque aussi tout le monde contemporain. Le nombre de fois où vous vous êtes trouvé dans des espaces, des lieux publics, où tout à coup, on vous invite à sortir le plus vite possible parce qu'une alarme se met en place. Cette pièce-là, elle évoque aussi cette poésie, guillemets, à la Momo poésie, cette poésie sonore terrifiante du monde contemporain. Où tout à coup, moi, le nombre de fois je me suis retrouvé ces temps derniers au cinéma ou ailleurs avec une alarme terrible qui m'invite à sortir le plus vite possible. Tout ça parce qu'il y a quelque chose qui se dérègle, quoi. Et alors, cette pièce, je la trouve belle aussi au nom du fait qu'il y a quelque chose qui participe d'un réglage, évidemment, comme vous pouvez le supposer, extrêmement savant. Et en même temps, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Il y a une sorte d'aléatoire de la manière dont elle va se comporter. Il y a un truc pavlovien, il y a un truc un peu bizarre, quoi. Il y a quelque chose d'animal dans cette pièce. Heureusement qu'elle est enfermée, hein. Il y a trois pièces qui ne se ressemblent pas du tout, hein, mais j'ai souhaité mettre ensemble ici, dans cette aile gauche, dès qu'on sort de cette épreuve précédente. C'est précisément cet ensemble d'œuvres qui se préoccupe beaucoup de l'observation, de la contemplation des nuées et des nuages. Vous savez, c'est la vieille histoire de Léonard, hein, Léonard de Vinci, hein, qui voyait dans les taches et les nuages les sources de toutes les figurations. Et je crois que tout cela n'est pas sans rapport avec l'époque, et je vous l'ai dit tout à l'heure avec la vidéo qui permettait de saisir l'effet des nuées, mais aussi la question de la figuration qui, dans les nuages, trouve toutes les sources des figurations. Hein. Alors là, c'est une pièce très complexe. Alors, ce que je trouve, mais je vais laisser Benjamin Rigaud en parler, parce que en fait, il y a tout un circuit fermé de l'image et du mouvement des nuages qui découle en quelque sorte d'une saisie de la lumière, hein, et d'une restitution de la lumière qui rétroagit sous le mouvement des nuages. Enfin, mais je voulais attirer votre attention sur le soin. C'est précisément ce que je vous disais tout à l'heure. Les objets sont beaux aussi, quoi. La performance technologique ne suffit plus aux artistes d'aujourd'hui. J'étais très très sensible, moi personnellement, à la qualité de fabrication, enfin la qualité, oui, de l'objet plastique en tant que tel. Mais enfin, je laisse Benjamin parler de ces flux et reflux. Faut parler un peu fort.
Oui, bah disons, enfin, juste premièrement, à un niveau formel, en fait, donc vous avez un radiomètre solaire. Donc un petit objet du 19e siècle, science physique, qui tourne selon avec la lumière de la vidéoprojection, et la vitesse influence la vitesse du radiomètre influence la vitesse de la vidéo, et qui influence la lumière. Et ici, on a une sorte de dispositif fermé de cercle. Ça passe de l'obscurité à la lumière, rapidité ou lenteur, et c'est un jeu de. Et donc c'est sur ce qu'est une image et sur. À un moment, c'est ce qui construit l'image qui influence ce qui est dans l'image. C'est presque quelque chose qui est de l'ordre de la sculpture avec ce qui la compose. Tout est interdépendant.
Oui.
En fait, c'est une sorte de réification de l'image. Et après, bon, c'est sur un dialogue entre les flux lumineux, les flux numériques, ce qui est visible, ce qui n'est pas visible, ce qui est tangible et intangible. Et c'est sur une sorte de balance comme ça entre divers éléments d'entre deux. Voilà ce que je peux. dire en bref, quoi.
Là, c'est dans ce cube, qui est à la fois réel parce que c'est un cube vraiment le plexi, mais à la fois virtuel parce que l'intérieur est fait de lumière et de fumée. Voilà, ça, c'est un enregistrement dans le nuage, dans la matérialisation de la lumière par la vapeur, par la nuée, du trafic urbain qui est au pied du Frénois. Ce que vous entendez, le bruit que vous entendez et qui affecte l'image, c'est les deux voies du trafic urbain, la bretelle en bas qui est au pied du Frénois, que vous entendez, qui donc donne lieu à ces vagues successives. C'est enregistré, c'est une longue séquence, une longue période du trafic à un moment plutôt exemplaire du trafic, quoi, qu'on a l'habitude de le voir. Et c'est une pièce assez folle parce que elle participe vraiment, alors là, de l'intérêt des artistes aujourd'hui pour le recyclage, j'ai presque envie de dire, de la pollution du monde, quoi. Il y a quelque chose chez les artistes qui a tendance à dire, surtout au XXe siècle, de Schwitters à bien d'autres, c'est récupérer les déchets du monde, quoi. Schwitters, lui, ramasser des bouts de bois, les tickets de métro, les choses jetées dans le caniveau. Lui, cet artiste, évoque le gaz automobile, la pollution, dont il fait un objet purement plastique, un objet abstrait, comme s'il y avait une sorte de réutilisation, de recyclage, de remise en... comme si la valeur esthétique... venait un peu sauver, il y a une sorte de rédemption, si vous voulez, de la pollution, une sorte de pardon, une sorte de pardon pour la pollution du monde, quoi. Une manière d'esthétiser finalement il y a cette tendance chez certains artistes aujourd'hui d'esthétiser les mots du monde, les mots MAUX, avec le danger que ça a, hein. Mais enfin, c'est aussi une façon de résister à la misère et à la laideur du monde que de tenter de faire quelque chose de ces mots, MAUX toujours. Voilà, c'est une pièce très belle, très fascinante, très hypnotique aussi, comme celle de Sébastien Cabourg.
Devant ce nuage, mais alors on va regarder le cobaye. Vous, par exemple, vous avancez, et plus vous avancez vers l'écran, plus vous agissez sur le mouvement des nuages. Il ne faut pas y aller plusieurs, hein, parce que voilà, hop. Alors là, vraiment, on est vraiment au cœur même de ce qui passionnait les impressionnistes. Hein. Si ce n'est que là, cet artiste travaille avec les moyens de l'interactivité, avec la vidéo, et non pas avec... la saisie picturale rapide de la couleur en tube, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez faire, je vais le faire. Ici, au bout d'un moment, on s'habitue, on entend le crissement de la corde, le souffle, l'épuisement, l'essoufflement du trapéziste et l'affrontement des deux souffles. Son souffle à elle qui va jusqu'au bout, à un moment donné, de l'impossibilité de chanter parce qu'elle monte trop haut, et lui de son impossibilité de continuer physiquement d'accomplir ce qu'il accomplit. Il n'en peut plus, quoi. Il tombe. C'est toutes des pièces où il faut passer un peu de temps, quand même. Hein. C'est une très belle pièce, très, très harmonieuse. Et évidemment, alors ce qui est très intéressant, et ça c'est une tendance aujourd'hui, c'est que les artistes, qu'ils soient jeunes, nouveaux comme cela, encore un peu étudiants ou les plus confirmés, ne se contentent plus seulement de la plasticité, de la réussite des formes. Il leur faut du temps pour dire quelque chose qui s'accomplit un peu, avec un peu de dramaturgie. Avant l'installation en matière d'art plastique,
excluait le fait de raconter une histoire. Hein, le spectateur mobile ne se prêtait pas au fait qu'on lui raconte une histoire. Aujourd'hui, les artistes essayent de capturer, de captiver les visiteurs en leur racontant une petite histoire. Et là, il y a une histoire, là, il y a un affrontement, il y a un conflit entre quelqu'un qui... Vous l'entendez souffler, là. Il faut venir ici où je suis, hein. Et plus l'affrontement entre la voix se fait avec la performance physique du trapéziste, plus ça hurle et ça... Enfin, faut prendre du temps. Mais j'insiste encore une fois cette tendance des plasticiens d'introduire du récit, du drame dans les œuvres plastiques... Il a le choix entre donc l'interprétation classique de cette pièce, voilà. C'est la même pièce qui continue. Hein. Et s'il a vraiment, il peut choisir la version contemporaine. Et bien évidemment, c'est le même acteur, hein, qui se démultiplie. Alors, ce qui est un peu assez drôle d'ailleurs, c'est qu'on peut aller là, mais voilà, hop, et alors. Évidemment, là, si vous voulez venir avec moi, en général, si on s'y met à plusieurs, ça marche pas toujours. Enfin, il se démultiplie quand on vient à plusieurs. Mais alors, lui est très drôle, très amusant, très brillant. Il passe par une multitude de personnages, ça prend beaucoup de temps. Et c'est le même texte qui continue. Hein. Voilà. Et c'est très amusant. Parce que si on prend le temps de suivre le texte, là il n'y a plus personne, vous voyez. Donc il répète. Alors là, vous êtes rebelle. Voilà. Vous avez le choix. Bah. Le texte initial qui est répété, ce sont deux pièces interactives. Qu'est-ce qui appelle que le visiteur s'assoit? Alors ça marche, je ne sais pas jamais quand, tout à fait bien, mais au bout d'un moment, le spectacle vidéo intègre votre image. C'est-à-dire votre visage est intégré dans l'histoire. Alors, la machine est en train de scanner mon visage. Alors normalement, on devrait me voir tout à l'heure. La métaphore est claire, quoi. Il y a cet énorme phallus qui tombe. Et une goutte de sperme qui engendre une naissance. Alors je vais naître bientôt. Tout à l'heure, je vais naître dans cette histoire. En général, on n'est plutôt pas arrangé. Hein.
bah, le meuf là, vous voyez, c'est vraiment moi, ça y est, je suis capté, mais c'est bon, je me bah, moi je me reconnais un peu mieux que les... Bah, bon, je vais revenir normalement. Voilà, meuf là, là-bas. Oui, c'est moi, quand je bouge la tête, vous voyez. Je sais pas comment je reviens. Me revoilà. Une très belle pièce au sol avec également du vent, les lettres deviennent des nuages, se recomposent, se ressaisissent, forment des mots, les caractères sont cyrilliques, mais les textes sont français. Le texte qui se compose est français, d'après les poèmes de Maïkovski. C'est une très belle pièce qui montre la fragilité, l'éphémère de l'écriture, l'évaporation poétique, littéralement, au sens propre du terme. Et c'était amusant de mettre cette œuvre-là ici, confrontée, très proche d'une autre pièce à côté, qui est celle dont je vous ai parlé, qui évoque l'obsolescence des supports. Vous avez au sol des matériels, des supports sonores qui font entendre, qui exposent l'obsolescence de leur fonction, en quelque sorte, hein, le son. Alors, disque vinyle, cassette vidéo, bande magnétique du Nagra, petit DVD, petit disque laser, qui sont tous soumis à la disparition dont on entend les ruines sonores. Ce qui est exposé, c'est l'usure même de ces supports, qui en plus évolue, parce que à terme, je ne sais pas du tout ce qu'elle deviendra. Il reste ce qu'il en restera. Quoi.
En fait, on est en train de peaufiner des réglages encore. Donc
Vous ne le voyez pas là, mais sur ce billot, il y a un corps. Mais vous ne le percevez que à la mesure, c'est vos frôlements, c'est vos caresses qu'ils font apparaître. Et là, vous avez touché quelque chose là.
Plutôt le cœur.
Ah oui, on est à l'intérieur. On est à l'intérieur.
En fait, il y a une sculpture qui est présente ici et elle est perceptible avec l'oreille devient le guide de la main, dans le sens où il y a des sons qui créent une enveloppe, qui sont des sons de caresse, de respiration. Donc avec ça on peut trouver l'enveloppe. Si par erreur vous rentrez dedans, vous entendez normalement et là vous êtes dans un point névralgique, par exemple. Donc, là, je peux vous montrer, ce volume marche pour l'instant très bien parce qu'il est très fort. Retour surface. Donc, en fait, c'est de créer la matière même de la sculpture et du son. Il y a une captation qui est faite avec de la lumière. C'est-à-dire qu'il y a de la fibre optique qui arrive à fleur et qui capte la densité lumineuse de l'ombre sur la surface. Donc le bois vermoulu, l'utilisation du bois vermoulu permet un camouflage. Donc bon, j'ai traversé toutes les étapes du corps. Normalement, on entend la surface, l'intérieur, juste avant de poser, et là, ça s'arrête.
Ah, a déjà parlé avant de faire la visite, on a parlé déjà de cette installation qui est à la fois autobiographique, anamnésique, qui renvoie à des souvenirs personnels de Marie Hendrix, qui est ici, mais c'est une pièce dont je vous disais précisément qu'elle avait beaucoup le charme des œuvres qui étaient donc autobiographiques, où il y avait du récit, mais aussi qui cachait au fond la virtuosité numérique, puisque là, la programmation se fait à la faveur de ce lustre kitsch, qui, indépendamment du fait qu'il renvoie à du temps passé, du temps révolu de Marie Hendrix, programme par ailleurs le retour des anamnèses, le retour des images mentales, le retour des souvenirs.
En fait, il y a toujours le même début et la même fin, comme dans une conte de fées, il était une fois, ils vécurent tous heureux. Et après, c'est une narration en huit séquences. Donc les six autres ont 12 versions. Et c'est le temps qui est matérialisé par le lustre qui détermine les choix de séquences. Donc la durée. Voilà. Donc la durée de la première séquence détermine le choix dans la séquence numéro 2. Et c'est le temps accumulé qui, au fur et à mesure, décline les différentes versions. Donc il y a plus de 2900 possibilités de lecture. Donc ça peut tourner pendant plusieurs jours avant que ça les ait tous lus. Donc ce qui m'intéresse, c'est que là, il y a aussi un mélange de vidéos de famille, de photos de famille filmées et des scènes de reconstitution. Donc comment les choses se reproduisent au fur et à mesure des générations, mais avec des légères variations. Et donc le tout, en fait, c'est parti de la maison de mes grands-parents, où il y avait une table miroir comme ça, et j'étais fascinée par l'inversion du salon très chargé dans le reflet. Et le seul moment où c'était caché, c'était pendant le repas, et qu'il y avait donc un sens à cacher l'inversion du repas, et qu'on était très bien nourris, mais pour être mangé après. Donc je tente de démontrer ça avec ces scènes de reconstitution et les archives familiales. Donc il y a du son qui sort de la table, c'est des extraits d'opérettes d'Hansel Gretel, d'une paire d'une, choisies, qui font sens par rapport aux images en allemand. Et puis derrière, c'est le son direct des vidéos.
Cette œuvre.
Oui. Écoutez, en fait, j'ai voulu créer un dialogue entre les nouvelles technologies, quelque chose de beaucoup plus analogique, plus pur et minimal. Et j'ai voulu créer une machine autonome où le son déclenche l'image. Et je leur ai assigné une temporalité précise, en fait, puisque tout est voué à s'user. Et au cours du temps, le film change petit à petit.
Le choix des images s'est fait comment ?
Je voulais qu'il y ait un épuisement du son qui entre en résonance avec cet épuisement-là des corps. Et voilà, que tout s'inscrit vraiment dans une temporalité. Et donc voilà, assigner ça aux nouvelles technologies et imposer cette machine autonome un peu créatrice d'images et de sons.
La notion de l'épuisement, c'est un thème qu'on retrouve un peu souvent ici dans cette exposition.
Je trouve, oui, il y a Yann Leguet aussi qui fait quelque chose autour de l'usure, de tout, des médiums, en fait, de différents médias détruits. Et c'est une dimension un peu existentielle et un peu métaphysique. Et je voulais signer ça à ce travail un peu contemplatif, en boucle, avec une espèce d'éternel retour, mais qui s'érode au fil du temps, en fait. Je voulais leur assigner cette temporalité-là et tenter un dialogue entre ces choses analogiques, ce disque vinyle, une image, et ce dialogue entre les nouvelles technologies et ces choses analogiques.
This is a film as object.
Okay.
And the number is actually a transcendental number called E. Euler's number, a logarithmic number, E. That's it. The content is just numbers. But the most important thing is how you feel, how you experience. the material is just material, but what you see is what you see everything. So your feeling is really important. Like, yeah, you feel really just line. And when you close, and you find something, it's just, this kind of experience is really unspeakable. Yeah. And each person has a different feeling. And I really don't want to explain what it is, actually. Yeah, it's just like kind of a mystery. I really keep on things a mystery. Yeah. They're just numbers.
Well, what do you see?
This is actually, you are watching, you are looking at the whole DNA data of human being.
Huh?
In 2 minutes. And this is the random. Random numbers. Like you're looking at kind of infinity. So it's very hard to explain because this is so abstract. And behind this, there is very strict mathematical principle. But I don't want to explain this because it's too complicated.
Yeah.
And this is very simple. What you see is really what you see.
Yeah.
It's more experience from your mind, from your heart. And if you look at the...
It's also different perception.
Madame, Monsieur, bonjour. La météo au cœur de l'actualité de ce jeudi. Le réchauffement climatique de la planète, longtemps mis en avant par les écologistes, devient l'affaire de tous. Les températures excessives de ces derniers jours et le manque de pluie font craindre de grands bouleversements. On en reparle dans ce journal. International, le scoop de la journée nous vient de l'agence arabe Al-Sour. D'après leurs sources, quelques-uns des leaders les plus recherchés de l'organisation terroriste Al-Qaïda ne seraient en réalité que des comédiens. Nous rejoignons tout de suite notre correspondant sur place, Hakim Selavi, à Qatar. Bonjour Hakim, qu'est-ce qui se passe exactement? On a l'impression d'assister à un remake du film d'espionnage.
En effet, tout ceci ressemble à un mauvais film d'espionnage dans un conflit qui, rappelons-le, a déjà fait des milliers de morts. L'agence Al-Sour a distribué aujourd'hui même des documents qui prouvent très clairement que les principaux collaborateurs de Oussama Ben Laden ne sont en fait que des imposteurs. Le mystère autour de cette organisation engendre toutes les spéculations. Ben Laden est-il mort ou vif? Où se cache-t-il? Qui sont-ils vraiment, lui et ses hommes? Des éléments nouveaux sur Mamba Mokhfi, plus connu comme le docteur Fazkia El-Younat, porte-parole et cerveau des organisations militaires islamistes en Proche-Orient, viennent de nous être communiqués. Ces dernières années, Fazkia El-Younat a incarné sur les écrans le visage le plus radical du mouvement djihadiste. C'est au cours de la campagne militaire conduite par les Américains contre les talibans en Afghanistan après les attentats du 11 septembre qu'il est devenu le porte-parole officiel d'Al-Qaïda. Militant de la première heure, alors qu'il n'était qu'un simple étudiant à l'université du Caire et analyste pertinent des enjeux politiques, il bénéficie d'une reconnaissance incontestée parmi les moudjahidines. Cette image du chevalier des temps modernes a su séduire le cœur de tous les téléspectateurs. Son assurance face aux caméras, ses manières raffinées et sa façon élégante de maîtriser le geste et l'expression dramatique nous laissent penser que Fazkia El-Younat a beaucoup appris des professionnels de la communication et du spectacle. C'est après une enquête fouillée sur son passé que nous avons découvert que Manba Mokhfi, avant de devenir le docteur Fazkia El-Younat, était un comédien prisé et un modèle en vogue dans tous les pays arabes. Nous avons pu nous procurer une des publicités les plus diffusées de sa carrière. Dans une interview diffusée hier, Mamba Mokhfi a reconnu que toute cette histoire n'était qu'une mystification orchestrée par une agence de renseignement dont il a voulu taire le nom. Une mise en scène dans laquelle il n'interprétait qu'un rôle. La Maison Blanche a nié immédiatement toute relation avec le canular. Pourtant, le mystère persiste. Hakim Selavi, Spectra TV, Doha, Qatar.
Merci Hakim. Sans transition, une page sociale. Les enseignants vivent moins bien aujourd'hui qu'en 1981.
Joan von Coubertin. Ici, c'est le domaine d'une agence photojournalistique. Il y a eu deux journalistes, des photojournalistes, qui ont séjourné pendant quelques mois pour travailler dans la préparation d'un livre. Et alors, ils sont partis maintenant et ils sont des copains à moi. Et ils m'ont laissé, disons, le mandat d'organiser un peu ce qu'ils ont laissé comme un peu des matériaux, des travaux, des images qu'ils ont choisies pour cette publication, voire même des pages de ces livres qu'ils vont préparer, etc. Et comme vous voyez, ils ont été des reporters dans les endroits les plus chauds de l'actualité internationale, les Moyen-Orient. Ils ont suivi, disons, des jihadistes dans leur combat, même dans des endroits, disons, pour faire la propagande, pour faire un peu la pédagogie de l'islamisme, etc. Et alors, voilà, il y a des publications qu'ils ont fait, des tirées des espaces télé, des téléjournaux où ils ont participé, etc. Et alors, les spectateurs doivent finalement vérifier où il y a la vérité, où il y a l'ambiguïté, où il y a l'équivoque, la mensonge dans tous ces documents.
Dans cette complexité actuelle, où on ne sait plus exactement dans les informations qu'on nous donne, le vrai, le faux, est-ce que vous n'avez pas l'impression de rajouter à la confusion, ou est-ce que vous voulez dénoncer cette confusion ?
Bon, il y a vraiment une réflexion sur la confusion elle-même. Je prends deux images comme ce qu'on trouve dans la presse, ce qu'on trouve dans la télé, les médias, et je montre de quelle façon il peut être manipulé avec une facilité extraordinaire. Alors je pense que quelqu'un qui regarde les images accrochées ici voit des documents d'actualité, mais petit à petit, quand on regarde en attention, on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, et alors il y a un sentiment de mal à l'aise, et finalement on découvre qu'il y a une supercherie, qu'il y a une manipulation, que les images ont été bricolées. Et alors si on découvre ça à la fin, pourquoi pas douter que les images qu'on avait données comme bonnes, comme des vrais documents, n'étaient pas aussi manipulées. C'est-à-dire qu'à la limite, il y a une volonté pédagogique. Il faut voir comme toute information est une construction, que les images ne sont pas de reflets naturels et spontanés de ce qui se passe en face de l'objectif, mais qui sont des constructions intellectuelles comme n'importe quel autre élément de communication humaine.
La difficulté, c'est quand même qu'il y a beaucoup de gens, à la limite, qui ne cherchent pas forcément ce qu'il y a derrière les images. Et à la limite, peu importe, ils prennent ça comme argent comptant et ils vivent avec.
Mais ici, je crois qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau plus raffiné, plus sophistiqué pour les experts, mais il y a aussi des éléments pour les publics, pour les spectateurs, les visiteurs en général. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui vont déclencher les alertes. Quand on voit, par exemple, les soi-disant terroristes qui font des cabrioles sur une mule, on voit tout de suite qu'il y a une blague, qu'il y a un clin d'œil fait à les spectateurs. Tel que ça dépend. Je pense qu'il y a toute une stratification de couches, et même quelqu'un qui ne cherche pas l'analyse de l'image, d'abord va s'amuser et après découvrir qu'il y a quelque chose qui se passe.
Mais actuellement, beaucoup de choses sont équivoques, pas seulement par rapport au monde musulman, mais même par rapport à ce qui se passe en Amérique du Sud. Les médias officiels ont tendance à modifier énormément la réalité, la travestir.
Oui, c'est vrai. Mais vous savez, moi, comme artiste, je m'occupe de plusieurs domaines. Par exemple, travaillé beaucoup sur les monopoles de la vérité qui se donnent la science ou la religion ou les institutions, l'académie, etc. Et dans ces projets que je présente ici au Frénois, je m'occupe de médias, de la presse. Et alors, je plie les images qu'on a des Arabes parce que c'est une situation claire où il y a une volonté de filtrer cette image. C'est-à-dire qu'après la chute du communisme, il faut cibler un ennemi, il faut chercher l'autre. Et il y a tout un intérêt de la part des politiciens, de la part des médias, de nous donner les musulmans comme les autres. C'est-à-dire ces communautés antagoniques, différentes à nous. Et alors, bon, je joue sur un cliché qui existe déjà et je fais un test sur les préjugés qu'on a sur cette image. Une image créée, comme je dis, générée par les médias. Par exemple, dans le cadre de l'expo, je présente un journal où tous les textes sont en arabe. Moi, je ne comprends pas l'arabe. Je ne sais pas si vous le comprenez.